que pour cela, je suis bien entouré par Pierre Bordage, écrivain de science-fiction bien connu et qui nous a donné de nombreuses sagas jusqu'à maintenant, dont la dernière est La Fraternité du Panka, qui est une grande histoire cosmique, donc qui recoupe, je pense, certains des intérêts que nous avons à cette table ronde, et dont le dernier volume doit paraître d'ici quelques semaines. Et Roland Lehou, qui est physicien, bien ça, membre du CEA, voilà, dont on peut lire les chroniques scientifico-science-fictionnesques régulièrement dans Bifrost. Et dans plusieurs de ses livres, on a eu entre autres la physique de Superman et plus récemment science-fiction, la science mène l'enquête. Donc deux personnes qui sont tout à fait au fait de ça et qui en plus présentent. Alors là, vous assistez à une table ronde qui présente la particularité d'avoir l'ancien président des Utopiales et le nouveau président des Utopiales. Donc je suis là très bien entouré. Et on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant des exoplanètes, parce que le temps qu'on fasse cette table ronde, on aura sûrement au moins une nouvelle de découverte. Ça n'arrête pas. Donc Roland, vous pouvez peut-être commencer par nous faire un petit topo là-dessus.
Oui, alors ces exoplanètes sont donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. La première a été découverte par un astronome suisse appelé Michel Mayor et son équipe. Michel Mayor et d'autres. Et depuis, donc c'est en 1995, comme ça, et depuis on a découvert plus de 750. On est maintenant à 755, comme ça. Comme le dit Jean-Luc, effectivement, on en découvre très régulièrement. Alors ça arrive par petits paquets, on ne sait pas une tous les jours, c'est en moyenne, on va dire, je ne vais pas dire une par jour, mais c'est par mois en moyenne, une douzaine par mois, parce que ça nécessite d'observer des étoiles pendant des longues périodes de temps. On ne les voit pas directement, ces exoplanètes, on ne les voit pas comme une image, comme un petit point brillant dans le ciel, disons. On les voit par l'influence, essentiellement par l'influence que leur présence a sur le mouvement de leur étoile. L'étoile, au lieu de se déplacer, disons, en ligne droite dans l'espace, ou en suivant un mouvement habituel, elle fait des petits zigzags autour du centre de gravité de l'étoile et de la planète. Avec pour conséquence qu'en observant très finement le mouvement de l'étoile, on déduit les choses qui sont autour, s'il y a des choses autour, et en quelle quantité, et en quel nombre, et en quelle masse. Alors ces exoplanètes, on en a 755. Les premières qu'on a détectées, dues aux pauvres moyens, c'est, quand on a détecté la première exoplanète, c'était quand même un coup de tonnerre, évidemment. Mais si l'on compare les moyens qui étaient utilisés en 1995 et ceux de maintenant, les progrès sont considérables. On ne pouvait à l'époque détecter que des exoplanètes dont la taille était de l'ordre de quelques fois la masse de Jupiter, autrement dit plus grosse que la plus grosse planète du système solaire. Donc ça donnait déjà des planètes en dehors d'autres étoiles, autour d'autres étoiles, mais disons d'assez grosse taille, pas celle qu'on espère trouver et qu'on espère toujours trouver, qui ressemble, on va dire, à la Terre, des planètes qu'on appelle des exotères. Alors maintenant, la qualité, la sensibilité des mesures est telle qu'on a détecté plusieurs exotères, c'est-à-dire plusieurs planètes dont la masse est de l'ordre de celle de la Terre, un peu plus typiquement de l'ordre de 2 fois à 7 fois la masse de la Terre. Donc des planètes qui sont avec un sol solide, avec une atmosphère très certainement, qui ressemblent en rien aux géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne dans notre système solaire. Les premières exoplanètes trouvées, et bien l'essentiel de sa contour encore maintenant, qui sont des géantes gazeuses. Donc, a priori moins intéressantes si on s'intéresse à la question de la vie, de l'origine de la vie, ou de la possibilité d'une vie sur d'autres planètes. On s'intéresse d'abord à des planètes qui ressemblent à la Terre, ce qu'on appelle les exotères. On en a trouvé, maintenant c'est un petit nombre, une poignée, moins de 4 ou 5. Et puis ensuite, il y a une deuxième condition, quand même, pour que ces planètes soient vraiment intéressantes, c'est qu'elles soient à une distance de leur étoile pas trop proche, auquel cas elles seraient vraiment chaudes, pas trop lointaines, si on y fait vraiment froid, qu'elles soient, comme dirait Boucle d'Or, dans tous ces boucles d'or, à la bonne distance, ni trop chaud, ni trop froid. Alors c'est un peu, il y a des subtilités dont on va rentrer encore derrière, mais en gros, quand dans une zone qu'on appelle la zone d'habitabilité, de sorte que l'eau liquide, parce qu'on estime, peut-être est-ce une fraude, mais on estime que l'eau liquide est quelque chose d'important dans les conditions de la vie terrestre, ça c'est tout à fait clair, mais peut-être dans les conditions de la vie en général, de sorte que l'eau liquide puisse subsister à la surface de la planète en question. Donc ça donne, dans les 4 ou 5 planètes, il n'y en a maintenant plus qu'une seule qui est dans la zone d'habitabilité, de ce qu'on pense être la zone d'habitabilité de son étoile. Les autres sont soit trop proches, soit trop lointaines, donc soit trop chaudes, beaucoup trop chaudes, soit glacées. dans notre système solaire, la zone d'habitabilité, pour donner une idée, elle se situe en gros, la Terre elle est en plein dedans, et elle se situe en gros entre Vénus et Mars. Vénus est sur le bord interne, Vénus est une planète chaude, qui a un effet de serre divergent, où la température au sol de Vénus est 450 degrés, donc c'est pas un endroit extrêmement agréable. Et la limite externe de la zone d'habitabilité, Mars est un petit peu à l'extérieur, et Mars est plus petite que la Terre, elle a une gravité plus faible, elle n'a pas l'atmosphère. Alors, pour que la planète soit habitable, même dans la bonne zone, il faut qu'elle ait l'atmosphère. Si on a l'atmosphère de la Terre n'est pas habitable, enfin, en tout cas pas par la vitesse qu'on la connaît. Et donc Mars n'a pas d'atmosphère, elle est à l'extérieur, il fait la température moyenne sur Mars, c'est moins 60 degrés. Avec des maxima à 5 ou 10 degrés en plein été à l'équateur, et des minima à moins 180 dans les régions polaires pendant l'hiver. Voilà. Donc en ce moment, c'est évidemment une énorme agitation autour de la découverte de ces exoplanètes. D'abord parce que c'est un champ nouveau complet de l'astrophysique qui s'est ouvert, de planétologie comparée, mais pas restant dans notre système solaire, mais dans d'autres systèmes solaires. Même si on a peu d'informations sur ces planètes, essentiellement on connaît leur orbite, leur période orbitale, etc., leur masse, ça permet de comparer les structures de ces systèmes solaires à notre système solaire, de comprendre finalement comment se forme le système solaire, plus que comment apparaît la vie pour l'instant. Évidemment, la recherche d'exotères, elle est, il y a en arrière-plan la question de l'éventualité d'une vie sur ces planètes, d'où cette sous-question particulière des exotères. Une fois qu'on en aura trouvé beaucoup d'exotères, même une ou deux, ce n'est pas suffisant, quand on en aura trouvé beaucoup, je ne sais pas, des dizaines, des centaines, il faudra faire une chose au-delà de leur simple détection, il faudra faire une analyse de leur atmosphère, et donc être capable de les voir individuellement, ce qu'on ne sait pas encore faire actuellement, la voir à la planète comme un point lumineux, dont on est capable d'analyser la lumière pour avoir une idée de la composition atmosphérique. Et de cette composition atmosphérique, on aura des indices qui sont encore à définir, pas toujours très pertinents pour l'instant, pas clairs encore, des indices si oui ou non il y a une vie sur la planète. Donc ça sera, vous voyez, et encore les étapes à franchir, on est pour l'instant à la détection indirecte, une fois capable de détecter, de les voir directement, ce qu'on ne sait pas faire, et ensuite faire de la spectroscopie pour l'atmosphère pour pouvoir parler d'une éventuelle vie sur cette planète. Donc il y a encore des étapes à franchir, mais il y a 15 ans, il y avait tout simplement zéro planète connue en dehors du système solaire. Maintenant, il y en a 750. Et il y a le satellite Kepler, qui est un satellite qui est, dont l'objectif essentiel est de détecter les exoplanètes. Il y en a 1200 en stock. Ça veut dire des objets dont on pense, des étoiles dont on pense qu'elles ont des exoplanètes, mais dont on n'a pas encore sûr qu'elles sont là, parce qu'il faut encore accumuler des observations pendant des périodes de temps qui se chiffrent souvent en années, en mois et en années. Et donc, il demande des vérifications successives et un peu plus longues pour être sûr qu'elles sont là. Et, si on fait la même conférence dans un an, on sera largement au-delà des 1500 exoplanètes, sans aucun problème. On peut le parier, je peux le parier avec une bouteille de champagne maintenant, je suis sûr.
Merci Roland pour cet exposé très clair. Alors, Pierre, ce genre de recherche, est-ce que ça nourrit l'imaginaire de l'écrivain de science-fiction que tu es, alors que tu as déjà résolu quelque part le problème des exoplanètes et de la vie extraterrestre? t'es un peu en avance, parce que dans le Panka, la galaxie entière est peuplée par les humains.
Voilà. Alors je vais reprendre la phrase d'Audiard que j'aime beaucoup, c'est « les cons savent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Et donc les auteurs de SF et de space opéra, entre autres, ont souvent tendance à inventer des exoplanètes, des planètes habitables, pour de simples raisons romanesques, parce que y a plein d'intérêts à inventer des planètes. D'abord, pour l'attrait de la découverte, du voyage, de proposer un merveilleux voyage au lecteur, puisque on dit souvent que la science-fiction est rattrapée par la science. Dans le space opéra, ce n'est pas le cas encore, puisqu'on a toujours un petit peu d'avance, parce qu'on peut aller très loin dans l'espace sans que personne vienne nous dire « non, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Pour l'instant, on est au stade des observations et ça prend beaucoup de temps, donc on peut s'amuser pas mal dans l'espace. Donc ça permet le merveilleux voyage au lecteur, c'est-à-dire il va découvrir un monde différent, avec une gravité différente, donc il va imposer des caractéristiques différentes, avec une atmosphère différente. Après, Roland dit effectivement, normalement, s'il faut de l'eau pour qu'il y ait de la vie, il faut une atmosphère pour qu'il y ait de la vie. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il y a d'autres formes de vie qui nécessitent d'autres systèmes pour survivre, etc. Donc, rien que sur ce plan-là romanesque, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est de mettre l'être humain, dans des conditions différentes de celles de sa planète d'origine, de voir comment il s'adapte, comment ça évolue. Donc, c'est évidemment se servir d'un côté exotique de l'univers pour parler de l'humain, tout simplement. Le space opéra, ça parle de l'humain, mais ça parle toujours de l'humain. même si on évoque les races extraterrestres, je ne pense pas que si moi, en tant qu'auteur, je vous racontais une histoire d'extraterrestre, d'abord je raconterais dans une langue totalement inconnue que personne ne comprendrait et je ne m'adresserais pas aux humains, donc ce serait vraiment pas intéressant, une civilisation dont tout le monde se foutrait. Donc évidemment, je suis un être humain, je parle des êtres humains, et quand j'envoie des voyageurs sur des planètes différentes, sur une large portion de l'univers, c'est juste pour encore mieux parler de l'humain, parce que je pense que plus on va loin, plus les caractéristiques humaines se dégagent. Ce qui est intéressant, c'est de monter des civilisations qui tiennent compte des caractéristiques de la planète, c'est-à-dire s'il y a un peu moins d'oxygène, s'il y a un peu moins de gravité. Je me suis dit un jour, s'il y a très peu de gravité, ou une gravité très, très faible, mais ça, Roland pourra me contredire, mais ça, il est là pour ça, c'est l'œil scientifique. Donc s'il y a moins de gravité, peut-être que l'usage des jambes est moins important, donc on pourrait peut-être avoir une atrophie des jambes ou quelque chose comme ça. J'ai travaillé ça dans le griot céleste. Si au contraire la gravité est beaucoup plus forte, on aura un écrasement, une tendance à l'écrasement musculaire, etc., pour lutter contre cette gravité. Et tout ça, ça me passionne parce que ça permet de voir des évolutions humaines dans différents types de climat, d'environnement. Et voilà, c'est vraiment pour moi un des intérêts majeurs du space opéra. Cette proposition d'un magnifique voyage à travers l'espace, ça coûte pas très cher, 20 francs le bouquin, 20 euros le bouquin. Voilà, et pour 20 euros, on peut partir, mais très très loin, sans que rien nous arrête, parce que l'imagination n'a pas de limite, c'est un petit peu ça son intérêt. Même si par ailleurs, comme nous sommes dans des univers de science-fiction, il faut un minimum de cohérence. Et je me souviens très bien, parce que dans mon premier cycle de space opéra, il y a du silence, Pierre Michaud, qui est très attentif aux notions scientifiques, qui était l'éditeur à l'époque de La Talente, qui m'avait dit « Pierre, ceci n'est pas possible pour telle et telle raison. » Il me balance toute une raison, une série de règles astrophysiques, de base, quoi. Et putain, je dis « Mais oui, mais c'est beau mon truc, c'est... Oui, mais ça peut pas marcher. Oui, mais c'est beau. Non, ça peut pas marcher. » Donc tu recommences tout. Et donc j'ai dû trouver une explication qui soit plus en cohérence avec simplement la connaissance scientifique, puisque... Évidemment, on est dans un univers de science-fiction, et dans l'univers de science-fiction, enfin dans science-fiction, il y a le mot science. Comment on prend une sorte de pari, c'est-à-dire que toutes les lois connues de l'astrophysique, on va tenter de les respecter. Et évidemment, on sait très bien que les vaisseaux ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, mais comme personne n'a réussi encore à prouver le contraire, on peut y aller carrément. Mais bon, voilà, après, quand on est dans des lois connues, on est obligé de les respecter, donc ça oblige à une certaine rigueur finalement, et je pense que plus la rigueur est grande dans le space opéra, par exemple, et plus l'univers est crédible et plus l'histoire devient intéressante, à mon avis. Donc c'est pour ça que les travaux de nos amis astrophysiciens sont très importants, parce qu'ils nous mettent des limites, et ces limites nous permettent de jouer à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant, je pense.
Alors Roland, vous pouvez peut-être rebondir là-dessus, parce que c'est effectivement l'objet de vos chroniques.
Oui, alors, pour rebondir plus directement, évidemment, les auteurs de science-fiction imaginent des tas de planètes curieuses dans un cadre plausible, en respectant un minimum de règles de plausibilité pour que les gens ne soient pas trop surpris malgré tout. Mais il y a eu un cas, de scientifiques qui se sont intéressés à créer toute pièce d'une planète avec des êtres vivants dessus, et une évolution qui aboutirait à cette région, c'est deux projets, c'est le projet Blue Moon et le projet Blue Moon et le ça y est, la mémoire par an.
C'est sur le net.
Donc voilà, ils se sont dit on va créer des planètes de toutes pièces en étant strictement cohérent du point de vue scientifique. Donc des planètes un peu curieuses, donc il y en avait une qui était en orbite autour d'une naine rouge, donc une étoile qui est beaucoup plus froide et beaucoup plus petite que le Soleil, et donc un rayonnement qui est plutôt dans la gamme du rayonnement infrarouge, donc nous on ne capte pas à nos yeux, donc un rayonnement très différent d'orientement de la Terre. Donc la photosynthèse ne marcherait pas pareil, ils ont inventé des plantes, ils ont inventé des êtres qui mangent les plantes et des êtres qui mangent pour manger les plantes. Ils ont fait une petite, des plantes qui ressemblent à nos plantes, ils ont fait une petite, système écologique. Et puis l'autre, c'est Aurélia, voilà. Aurélia, l'autre projet, voilà. Ça c'est la planète Aurélia, et la planète des Blue Moon, c'est une lune. En fait, c'est-à-dire un satellite d'une planète géante gazeuse, et qui a, pareil, qui est éclairé par un soleil comme le nôtre, mais qui est un satellite d'une géante gazeuse. D'ailleurs, je soupçonne les gens du film Avatar d'avoir simplement regroupé ce qui est dans le projet Blue Moon, puisque la planète Pandora, enfin, qui est un satellite en fait, Pandora, sur lequel se passe l'aventure d'Avatar, Pandora est en orbite autour d'une géante gazeuse qui s'appelle Polyphème. Donc voilà, il y a des cas aussi où scientifiques se prêtent au jeu de la fiction, de la façon de l'invention, en étant strictement cohérent évidemment du point de vue de la science. On se pose encore la question de savoir si les humains se prennent, mais sûr, les humains n'y vont pas, c'est juste d'écrire ce que pourrait être une planète avec une vie vraiment exotique par rapport à la Terre, vraiment étrangère à la Terre, qui ressemble en rien à la vie de la Terre, mais qui a quand même des traits communs. Ces êtres, ils ont des yeux, par exemple. Voilà, ça, c'est un point dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il semble quand même que si des êtres extraterrestres existent sur notre planète, d'abord, ils peuvent se présenter de manière extrêmement rudimentaire sous forme de bactéries, enfin, d'êtres unicellulaires, on voit des choses qu'on les montrerait dans les films de science-fiction, des machins qu'on ne voit même pas, qui n'ont pas très excitant, on va dire, du point de vue cinématographique. Et en même temps, s'ils sont des êtres plus complexes, avec beaucoup de cellules, voire des êtres intelligents, pensants, conscients d'eux-mêmes, alors il y a quand même un certain invariant auquel on peut s'attendre, parce que tout simplement, il faut qu'ils échangent entre eux, qu'ils échangent avec leur milieu. Donc pour échanger son milieu, ça veut dire qu'il faut respirer, ou faire quelque chose qui s'apparente à la respiration, il faut manger une boire, faire quelque chose qui échange des sortes de matière, d'énergie. Il faut pouvoir écouter, ou n'importe quel sens qui vous permet d'entendre, de capter ce qui se passe. En vrai, il y a un certain nombre de grandes fonctions qui doivent être respectées, et surtout que le vivant terrestre, par exemple, ces fonctions-là, on les trouve systématiquement dans tous les êtres vivants terrestres, même des êtres très rudimentaires à quelques cellules. Il y a des systèmes d'êtres vivants avec des yeux très très rudimentaires, qui sont essentiellement pas pour faire l'image, pour détecter la lumière, pour des êtres qui vivent mieux quand il y a de la lumière. Donc ils ont un petit système photosensible, une cellule photosensible sur les 5 ou 6 du système qui leur permet de s'orienter vers la lumière. Donc voilà, il semble que même qu'il y a des grandes fonctions qui restent. Donc du coup, comme disait Pierre, on peut faire ce qu'on veut évidemment en science-fiction, on peut faire absolument ce qu'on veut, on est limité par son imagination évidemment. En science, on peut faire aussi absolument ce qu'on veut, on est limité par les observations, les expérimentations et puis la connaissance physique du moment où on émet ses idées, donc il y a une contrainte très forte. Mais il y a un intermédiaire qui est intéressant, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, qui est l'imaginaire débridé, un peu bridé par l'état de la science, mais un peu seulement, parce que sinon c'est chiant. Et on voit en cinéma, par exemple, je trouve qu'au cinéma, de ce point de vue-là, ils sont beaucoup moins créatifs que dans les œuvres de fiction écrites. Parce qu'au cinéma, il faut que les images, à mon sens, et c'est mon interprétation, parlent aux gens. C'est-à-dire, encore une fois, si on prend Pandora, les êtres intelligents qui sont sur Pandora, c'est des humanoïdes. Ils sont grands, ils sont bleus et ils ont quatre doigts communiqués. C'est pour faire l'aspect curieux des choses. Mais sinon, essentiellement, c'est des humains. Et c'est normal parce que finalement, si on veut savoir s'ils sont contents ou pas contents, c'est bien de le dire sur leur visage spontanément quand on est spectateur. Si les intéresse pensants de cette planète étaient des boules de poils qui roulent par terre, d'abord, vous ne les reconnaissez pas comme des êtres pensants, parce que vous avez des biais humains. Deuxièmement, vous ne savez pas quelle est son humeur. Si tant est que ce mot-là ait un sens pour ces êtres, content ou pas content, et est-ce que ça a un sens pour eux. Donc il faut que l'on puisse comprendre ces êtres que l'on montre, y compris s'ils sont méchants, y compris s'ils sont gentils, que ça soit clair. Dans les œuvres de fiction écrites, il y a de la place finalement. L'auteur, il peut prendre son temps vraiment pour raconter les choses. Enfin, Pierre pourra apprendre ça, je vais beaucoup mieux ça. Et il y a eu des œuvres de fiction où les extraterrestres sont infiniment plus subtils. Par exemple, les nuages pensants de Fanoil. Par exemple, les Sheila, dans une œuvre de Robert Forward, des êtres qui vivent à la surface d'une étoile à neutrons. Donc, je peux vous dire qu'il a fallu un peu de créatif pour faire des choses autour de ça. Mais il y a des choses intéressantes à dire. Voilà. Donc, pour dire que d'être contraint, c'est sympa. Et de pouvoir se lâcher, c'est sympa aussi.
Je ne savais pas que Denis Rousseau, ce n'est pas intelligent, c'est les boules de poils, t'as parlé.
Les boules de poils, ils ne roulent pas. Mais lui, il ne roule pas, il ne marche pas. Il marche.
Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, la contrainte, on sait qu'une planète a une gravité, a une atmosphère, et donc ça crée tout, ça engendre toujours des contraintes. Et c'est un peu ça qui m'intéresse, parce que effectivement, on s'affranchit de certaines contraintes, bon, le déplacement. Quand on est un auteur de space opéra, principalement, on a un grand problème à résoudre, c'est celui du déplacement, parce que les distances deviennent effroyables d'un seul coup, et on est bien obligé, si on ne veut pas passer son temps dans les vaisseaux, ce qui m'est arrivé, hein, dans certains bouquins, on passe son temps dans les vaisseaux, parce qu'ils vont pas assez vite, hein, mais bon, voilà, je suis bien obligé de suivre le rythme du vaisseau, quoi. Donc après, je me dis, mais il faut que j'invente un système, parce que ça devient vite pénible, on va aller plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est en théorie impossible d'après Einstein, hein, si j'ai bien compris. Sinon, on ne sera plus que la lumière, on devient l'univers. Donc, c'est carrément pas possible. Mais on est obligé de s'affranchir de certaines contraintes pour pouvoir faire avancer l'histoire. Voilà. Et puis, c'est selon l'intérêt de l'auteur du moment. Et après, effectivement, quand on est sur la planète, on peut pas prendre le temps de la décrire, de voir des civilisations extraterrestres ou des espèces extraterrestres différentes des humains. Encore une fois, c'est toujours, évidemment, Moi, en tant qu'auteur humain, je me place toujours du point de vue humain, de mes perceptions humaines, et je vais toujours voir des civilisations ou des races extraterrestres, ou des espèces extraterrestres, par mes yeux d'humain. Hein. Sinon, si ça, comme je vous disais tout à l'heure, si je racontais uniquement une histoire d'extraterrestres qui ne pensent pas comme nous, qui sont totalement différents de nous, je ne sais pas qui ça intéresserait au bout d'un moment. Ça deviendrait un petit peu abstrait, parce que je pense que dans le roman, ce qui marche énormément, le roman est un travail de personnage, et ce qui marche, c'est l'identification au personnage. Donc, il faut un minimum d'identification à nos personnages. Donc on va découvrir, c'est toujours des humains qui vont découvrir des civilisations extraterrestres. J'en ai fait quelques-unes. Hein. Je ne suis pas vraiment le grand spécialiste des extraterrestres. D'ailleurs, c'est un thème que j'aimerais bien aborder maintenant, parce que mais genre, ça parsème un peu, t'entends, on en voit, voilà, comme ça. Il y a des scadges, par exemple. Des scadges, parce que ça vient du mot écaille, et donc voilà, ça se tourne avec des écailles, ce qui est vraiment un des grands standards de la représentation extraterrestre en science-fiction, etc. Mais voilà, après, c'est l'imaginaire, oui, enfin, évidemment, ce qui m'intéresse dans l'espèce opéra, c'est de pouvoir partir dans l'imaginaire, c'est de pouvoir avoir une vision beaucoup plus ample des choses, plus large des choses, mais encore une fois, voilà, je m'interdis maintenant de faire n'importe quoi, même si par ailleurs c'est des fois n'importe quoi, c'est une sorte de convention qu'on passe, quoi. La convention, c'est si la loi, elle est vraiment vérifiée et connue, on va la respecter. Si il y a un flou, là on va pouvoir exploiter et s'installer dans le flou, et nous prendre des grandes libertés d'un seul coup. Comme je vous le disais tout à l'heure, le voyage étant le principal problème à résoudre dans l'aventure spatiale.
Je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce qu'effectivement, ce que vient de nous dire Pierre est très intéressant, et c'est vrai que une grande partie des extraterrestres qui sont mis en scène, ils ont quand même toujours, ne serait-ce qu'au niveau des sentiments, des réactions, un aspect humain pour qu'on puisse effectivement sympathiser, que le lecteur puisse sympathiser un petit peu avec eux. Et il y a quand même quelques tentatives aussi de mettre en scène des vies extraterrestres complètement différentes de la nôtre, basées même sur des systèmes différents autres que le carbone. Je pense qu'il y a le célèbre épisode de Star Trek, Trouble for Tribbles, où ce sont des sortes de pierres basé sur le silicone. Donc, est-ce que là, il y a peut-être quelque chose à faire?
Oui, alors, effectivement, si on essaie de se dire, je ne suis pas biologiste spécialiste de ces affaires, exobiologiste, et quand même, ce que j'en comprends, c'est qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui est fondamentalement utile pour l'apparition de la vie. Alors, c'est une question très compliquée, parce qu'on ne sait pas la fin de ce passé, et on pourra de toute façon avoir qu'un seul exemple sous la main, c'est la vie terrestre. Donc, en fait, on va trouver qu'est-ce qui est fondamentalement utile pour la vie terrestre. Alors pour nous, il semble d'abord toute notre vie, elle est fondée sur quatre atomes essentiellement, CHON. On dit chomps, on est un peu plus sérieux, CHONPL, donc carbone, c'est le H l'hydrogène, l'âne l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Avec ça, vous faites pratiquement tout ce qu'il y a à faire en la vie. Bon, il y a bien du fer pour les neurones, pour le mine et tout comme ça, mais l'essentiel est fondé sur chomps. Alors est-ce qu'on peut le faire? Alors ça, c'est déjà un point. Après, il y a tous les autres points au-dessus, mais il y a déjà celui-là, les briques élémentaires atomiques, finalement, qui forment les êtres vivants, tous les êtres vivants sur Terre. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Alors, les gens disent, oui, pourquoi pas, on regarde dans la colonne du carbone, on a une vie qu'on appelle fondée sur le carbone, sur la chimie du carbone, on regarde sur la colonne, dans le tableau périodique, sur la colonne du carbone, les atomes, les éléments qui ont la même chimie que le carbone, sont sur la même colonne, parce qu'ils ont le même nombre d'électrons dans la dernière couche. Ces électrons de la dernière couche qui vont permettre de faire des liaisons chimiques, donc ils vont fixer tout le business de la chimie. Bon. Alors le suivant, le carbone, c'est le silicium. Bon, alors d'ailleurs, silicium, il y a beaucoup d'endroits où on voit traduire en français silicone, parce que ça s'est dit silicone en anglais. Silicon Valley, c'est pas la vallée du silicone, hein. Bon, il y a des implants en mer partout, c'est la vallée du silicium. Voilà. Là, j'en ai vu des, même sans science-fiction, les gens qui traduisent, ils disent Silicon Valley maintenant, parce qu'il y en a qui ont voulu traduire Silicon Valley avec un E à la fin. Bon, en tout cas, voilà, le silicium. Alors, le premier problème du silicium, la première difficulté du silicium, c'est d'abord qu'il est beaucoup, beaucoup moins abondant que le carbone dans l'univers. L'élément le plus abondant de l'univers, c'est l'hydrogène. Le second, c'est l'hélium. Alors, l'hélium, ça n'a aucun intérêt parce que c'est un gaz rare, donc sa couche électronique dernière, elle est complètement remplie. Il ne fait pas de chimie. Il n'y a pas de chimie de l'hélium, il n'y a pas de chimie des gaz rares en général. Ensuite, vous avez donc l'oxygène, le carbone. Voilà les éléments suivants. Hydrogène, hélium, après oxygène, carbone. Bon, alors, est-ce que c'est scandaleux que ce soit justement ceux qui ont une chimie un peu subtile. L'hydrogène, il a une chimie qui n'est pas une chimie propre, mais c'est un petit atome qui est en plus. Il n'a pas lui-même une sorte de... C'est pas lui-même un... Il n'y a pas de chimie d'hydrogène. Il y a de la chimie du carbone, oui, parce que le carbone peut faire des liens avec beaucoup d'autres atomes. Et le carbone est un des éléments les plus abondants, une fois qu'on a l'hydrogène et l'hélium, même le plus abondant avec l'oxygène. Alors le silicium, il y en a beaucoup moins. Juste une comparaison pour vous dire quand même la différence entre les silicium. Même s'ils ont des chimies voisines, ça veut dire là où il existe la molécule de CO2, par exemple, gaz carbonique, il existe la molécule de SiO2, mais le gaz carbonique, c'est un gaz, comme son nom l'indique. Alors que le SiO2, c'est, on ne dit pas, c'est du sable. C'est donc c'est de la silice, ça s'appelle la silice en minéralogie. C'est du sable, essentiellement, c'est-à-dire le sable. Donc vous voyez, la différence entre CO2 et SiO2, c'est la différence entre le gaz carbonique et le sable. Et le gaz carbonique, on peut le respirer. Donc par exemple, les plantes peuvent absorber du gaz carbonique et le transformer ensuite en dioxygène, et puis ils font des choses avec, et font de l'énergie grâce au gaz carbonique. On n'a jamais vu de plantes ramasser du sable. Enfin, c'est plus compliqué de ramasser du sable. C'est pas parce que c'est du sable, enfin, c'est parce que c'est un solide. Et que l'énergie de la façon dont les molécules de SiO2 sont liées dans le sable, eh bien c'est plus difficile de les extraire du sable que d'extraire des molécules de l'air. Parce que dans l'air, dans le gaz carbonique, les molécules ne sont pas liées entre elles. C'est pour ça que l'état physique, c'est un état gazeux et pas un état liquide, que déjà les molécules sont un peu plus liées, ou l'état solide, où là elles sont très, très liées entre elles. Donc si on voulait respirer, entre guillemets, de SiO2, ça veut dire être capable d'extraire des molécules de SiO2 du sable. Bon, c'est plus compliqué. Ça coûte plus d'énergie. Vous voyez qu'il y a des problèmes qui se posent, ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'on imagine mal l'intérêt de faire ça. L'intérêt pour un système comme la vie sur Terre, où on constate toujours optimum en un certain sens, optimum sur plein de points. Par exemple, sur les ressources énergétiques dont elle dispose, tous les êtres vivants optimisent leur répartition géographique, et même à l'échelle de la planète, et à l'échelle même d'un verre d'eau. C'est-à-dire, si je laisse ce verre d'eau ici sur la table et que j'attends, c'est dans ce verre d'eau qu'on développe des bactéries. C'est pas sur la table. Enfin, si je laisse pourrir une orange, je laisse une orange sur un objet, quelque chose de la nourriture pour moi, mais qui sera plus dans 2 ou 3 jours, ça sera de la nourriture pour quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est les êtres microscopiques qui vont se développer à la surface parce qu'il y a à manger, ils ne vont pas se développer à côté. Ils ne sont pas idiots. Ils se développent en optimisant certaines choses qui peuvent être des contraintes de nourriture, des contraintes d'espace, des contraintes d'accès à des ressources essentielles pour eux, ce qui peut être aussi la lumière, par exemple. Donc tout ça pour dire qu'on peut imaginer des choses subtiles, néanmoins, l'exobiologie, alors l'exobiologie s'est fondée sur essentiellement la vie sur Terre, et ce qu'on peut imaginer de possible. Alors, une chose intéressante sur Terre, néanmoins, c'est qu'on s'est rendu compte que les idées qu'on avait préconçues sur le fait, par exemple, qu'il ne peut pas exister de vie dans de l'eau au-delà de 100 degrés, on se disait à l'époque, dans les 70, dans de l'eau bouillante, en gros, il ne risque pas d'y avoir de vie. Ben, l'eau bouillante, c'est chaud. Chaud, ça veut dire que ça va casser les parois cellulaires, par exemple. Et donc, ça ne se fera pas. Ou la chimie, quand la température est trop élevée, ça peut briser des molécules qui étaient utiles à la vie. On constate, par exemple, que sous les océans, donc à des milliers de mètres de profondeur, il y a des endroits où les plaques terrestres se séparent. Il y a de la lave, de la roche en fusion qui sort. Et la température à ces endroits-là, elle dépasse largement les 100 degrés. L'eau n'est pas en ébullition parce qu'elle est sous très grande pression. Comme dans une cocotte minute. Dans une cocotte minute, l'intérêt de la cocotte minute, c'est de pouvoir mettre de l'eau à 120 degrés ou 130 degrés, au lieu de 100 degrés, ce qui fait cuire les aliments plus vite, donc cuire plus vite à 120 degrés qu'à 100 degrés. Mais pour ça, il faut maintenir la chose sous pression, d'où cocotte minute, c'est-à-dire d'où on ferme le truc, on serre bien pour que la pression soit importante à l'intérieur. Sous les océans, il y a juste le poids de l'eau qui fait que la pression est importante, très importante au fond des océans, et l'eau peut être facilement à 250 ou 300 degrés sans aucun problème, sans bouillir. Pas dans cette eau-là, mais dans les zones voisines où l'eau est assez chaude, on a trouvé des êtres vivants dans de l'eau à des températures supérieures à 100 degrés. Bon, déjà, vous voyez, ça règle le problème. Les gars qui disaient, ben non, ça ne marchera pas, on en trouve. On pensait que c'était des eaux, des êtres vivants qui utilisent exclusivement le soufre, par exemple, on n'y croit pas trop. Il y en a qui utilisent un peu le soufre, mais aussi le phosphore, on n'y croyait pas trop. Bon, ces êtres-là utilisent exclusivement le soufre. On pensait que des êtres mieux que des bactéries risquaient pas de faire ça. Eh bien, il y a des vers, des espèces d'êtres complexes, hein, qui ont plus d'une cellule, beaucoup de cellules, des multicellulaires complexes, qui sont dans ces eaux-là. On pensait que dans des eaux très salines, la vie pourrait pas se développer. On a vu de la vie se développer, exister sur Terre, dans des eaux qui sont essentiellement des saumures, hein, où il y a 200 grammes de sel par litre. Donc c'est pas de la mer, hein, c'est c'est beaucoup plus que la mer, hein. C'est 200 grammes de sel par litre, c'est des eaux vraiment très salées. On ne pensait pas dans des eaux acides, on en a trouvé, on ne pensait pas dans de l'eau basique, on en a trouvé, on ne pensait pas dans des eaux radioactives, on en a trouvé, bref. Partout, on n'imaginait pas que la vie puisse se développer sur Terre, on en a trouvé. Ce qui a du coup augmenté en fait considérablement les possibilités de vie. C'est toujours de la vie basée sur chance. Il y a toujours besoin d'une certaine façon d'un peu d'eau, éventuellement pas beaucoup. Il y a des êtres vivants qui se nourrissent des bactéries, qui se nourrissent directement de roches. Alors évidemment, ils ont un peu de mal parce qu'il faut qu'ils attaquent directement un solide. Donc ils prennent leur source d'énergie, c'est pas le dioxygène de l'air, le gaz de l'air, c'est ce qu'il y a dans la roche. Bon, c'est pas facile pour eux parce que ça coûte beaucoup d'énergie. Mais il y en a. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un large panel de choses. Donc il faut être ouvert d'esprit, mais avoir en même temps à la conscience qu'il y a des contraintes de physique, de chimie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, évidemment, l'auteur de science-fiction ne se pose pas sur ce détail-là, il a bien raison d'ailleurs, sinon il est bien fou. Mais
oui,
y a quand même beaucoup de contraintes. On ne peut pas, enlever des contraintes de physique et de chimie fondamentale finalement. Mais le panel de possibilités s'est largement ouvert au point que maintenant on est à imaginer que sur des satellites glacés, on dit glacés, donc pas de vie, de Jupiter, que ce soit le satellite Europe de Jupiter, le satellite Encelade de Saturne, on sait maintenant, on est vraiment très probable qu'il y a des grands océans d'eau liquide sous 10 ou 20 km de glace. Donc l'apparence externe du satellite, c'est de la glace. Bon, c'est fini. Oui, pour de la vie de surface. Mais si vous passez les 20 ou 30 km de glace, on est même quasiment sûr qu'il y a de l'eau liquide sous ces satellites. Et sous cette couche de glace, de l'eau liquide. Liquide pourquoi ? Parce qu'elle est protégée du vide externe par la couche de glace. Deuxièmement, il y a de la chaleur qui vient de l'intérieur de la planète. Peut-être pas beaucoup, mais quand même un peu. L'eau liquide, peut-être à 1 ou 2 degrés, peut-être pas très chaude. Il y a de l'eau liquide, il y a des molécules complexes, ça on le sait sur Encelade, parce que sur Encelade, il y a un phénomène tout à fait fabuleux qui s'appelle le cryovolcanisme, c'est des volcans d'eau. Cryo, ça veut dire la glace, hein. La cryogénie, c'est la technique pour faire des très basses températures. Et bien là, ce ne sont pas des volcans de roche liquide comme sur Terre, ce sont des volcans d'eau liquide. On a observé donc, c'est de l'eau liquide qui suinte qui est éjectée sous forme de vapeur par des failles dans la croûte. Dans ce là qui se rejette assez rapidement. Et en analysant cette eau liquide, on a trouvé des molécules complexes dedans. Pas juste de l'eau, d'autres trucs. Alors on se dit, on n'a pas vu de molécules à la base de la vie, on n'a pas vu d'extraterrestres qui sortaient éjectés par le truc, il s'était poussé par le volcan d'eau liquide. Mais voilà, ça donne l'idée que peut-être la vie est en fait bien plus robuste qu'on imagine. En tout cas sur Terre, c'est tout à fait évident. Et ça, quand on parle de vie, on imagine aussi souvent la vie de surface. Mais en fait, si on enlève l'atmosphère de la Terre, si on enlève le Soleil, ce qui nous paraît élémentaire pour la vie, toute la vie des océans, des fonds des océans, toute cette vie-là, toute la vie cavernicole, toute la vie dans les roches terrestres à des centaines de mètres de profondeur, dans la croûte terrestre, aucun changement. Leur source d'énergie, ce n'est pas le solaire, c'est la chaleur qui vient de l'intérieur de la Terre. Donc ça veut dire que voilà, quand on pense vie, il faut avoir l'esprit ouvert. En étant, quand on est scientifique, conscient des assez importantes contraintes, mais il faut avoir quand même l'esprit très ouvert. Enfin, sinon, vous cherchez des humanoïdes de pipettes, voilà, ils ne trouveraient pas.
Donc, peut-être la chance un jour, lorsqu'on a des explorations martiennes, de trouver des formes de vie primitives subsistant au fin fond de cavernes très profondes.
Voilà, sur Mars, c'est ça le truc, c'est à la surface de Mars, on n'a pas trouvé de traces de vie à la surface de Mars, pour l'instant. On n'a pas trouvé même de traces de vie fossiles. Bon, ce qu'on espère, c'est ça, c'est trouver des traces de vie fossile, parce que Mars, les conditions climatiques à la surface de Mars sont extraordinairement rigoureuses, même pour la vie terrestre extrême, ce qu'on appelle ces extrémophiles, ces bactéries, en général des bactéries, qui vivent dans des conditions extrêmes sur Terre, qu'on appelle les extrémophiles, qui aiment les conditions extrêmes. Même ces êtres-là, si on les mettait à la surface de Mars, ils n'ont aucune chance. Alors, ce qu'on pense, ce qu'on espère sur Mars, c'est soit de la vie peut-être présente encore dans des zones internes, mais qu'on ne voit pas à la surface par définition. Alors évidemment pour les trouver c'est plus compliqué. D'où le robot, le Mars Science Laboratory qui a été envoyé récemment, qui va atterrir sur Mars en août 2012, cette année, et qui lui il a un truc pour forer, bon il n'y a pas forer loin, hein. Il va aller à 20 ou 30 cm de profondeur, enfin c'est déjà quelque chose. Il va faire un trou et dire bon ben là, je vais regarder ce qui se passe. Bon. Peut-être une vie encore résiduelle souterraine, disons. Et l'autre possibilité, c'est qu'il y ait une vie se soit développée sur Mars dont on trouve des traces fossiles. Parce que pendant, estime-t-on, 5 à 700 millions d'années, il y a eu des conditions sur Mars où l'eau liquide a coulé. On a de nombreuses preuves que de l'eau liquide a coulé sur Mars. Que donc, si on pense que l'eau liquide c'est important, l'eau liquide à la surface on a plus. Il y en a peut-être sous des poches, encore une fois souterraines, donc ça n'est pas sûr. Donc la possibilité de vie fossile sur Mars. Donc soit des fossiles, soit des vivants extraterrestres, des vivants bactéries, enfin des êtres unicellulaires probablement, sous quelque chose sur Mars qu'on ne voit pas. Donc ça c'est encore une recherche très active sur Mars, parce que trouver des traces d'une vie en dehors de la Terre, ça serait... Bon, évidemment, la caméra du robot martien, il y a un type qui s'avance et qui coupe la caméra, enfin qu'on voit dans sa tablette, ça serait le truc, voilà, ça serait même un peu effrayant, on va dire. Mais des vies, trouver une vie bactérienne, une vie unicellulaire dans notre système solaire, ça serait une découverte absolument fantastique, enfin, s'il n'y a pas de mots, on ne peut pas sous-estimer l'importance de cette découverte-là. Donc c'est pour ça que c'est très poussé, les moyens mis en œuvre sont assez importants dans le système solaire et éventuellement, mais pour l'instant c'est assez lointain, comme disait Pierre, la distance à franchir est grande sur d'autres planètes, autour d'autres étoiles.
Donc, il semble que quand même, qu'est-ce que vous dites, maintenant avec la découverte que nous faisons, bon, la vie dans l'espace, il y aura quand même de bonnes chances qu'un jour, dans un futur plus ou moins proche,
on
trouve quelque chose.
Ça va tourner autour du pot. Après, donner une probabilité, on a une chance sur 1 milliard, c'est extrêmement difficile. Et voilà, parce qu'on n'a qu'un seul point, la vie sur Terre existe. Bon. Après, on imaginait qu'il y avait beaucoup de planètes dans l'univers. Maintenant, c'est pas on imagine, on en a 755 de sûr, et si on fait une petite projection, c'est pendant des milliards de planètes, rien que dans notre Voie lactée. Bon, ça maintenant, c'est devenu sûr. On imagine qu'il y a de la vie dans l'univers, on se dit quand même.
Oui, les probabilités sont quand même plutôt favorables. C'est sur des milliards, ça veut dire que...
Oui, mais bon, on ne sait pas. Le problème, c'est que scientifiquement, on ne peut pas dire ça comme ça. On peut dire on ne sait pas. Mais évidemment, dans un coin du cerveau, s'il y a tout cet argent mis là-dedans, et s'il y a tous ces gens qui parlent là-dedans, c'est qu'évidemment, de leur personne, ils se disent bien que, bien sûr...
Et puis, on en a envie.
Et on en a envie.
Bah ouais, on a vraiment envie de trouver de la vie ailleurs. Et tout
même
ça.
Des microbes.
Même n'importe quoi, mais
même
de la vie. On dirait, c'est vrai que d'avoir conçu tout ce machin pour juste nous, une petite planète perdue dans
un train de la Voie lactée. Il y a une phrase assez étonnante, que la vie existe dans l'univers, ou que la vie n'existe pas dans l'univers, sont deux perspectives sont également stupéfiantes.
Oui, c'est vrai.
Si on avait la preuve qu'il n'y a aucune vie dans l'univers à part nous, ça vous donne une idée de la responsabilité qu'on a de matière pensante, de matière vivante par rapport à la matière inerte, de prolonger cette matière non-inerte, vivante, de lui prolonger, de donner ses chances. Et donc, de cette perspective, de démontrer, on chie l'atmosphère, on pollue la Terre. Si on pouvait prouver que c'est le seul endroit où la vie s'est développée dans notre galaxie, on a parlé de l'univers, ça vous donne une responsabilité qui est quand même encore un peu différente.
Ouais.
Voilà. Bon, mais après, c'est des spéculations qui sont extrêmement intéressantes, c'est ça le point. C'est que ça permet de... En fait, finalement, comme disait Pierre, j'adapte à faire ça, c'est que l'humain, ça regarde nous, la vie sur Terre, la Terre, d'une perspective différente, et ça pose des problèmes d'une perspective extérieure vraiment différente.
Ce qui m'intéressait dans ce que tu disais, outre le fait que ce soit un propos purement scientifique, enfin, c'est formidable, c'est de voir comment progresse la science par l'observation. Donc, j'ai l'impression que l'auteur de science-fiction prend le relais à un moment parce que l'observation s'arrête, tout simplement, et que non, bah, il faut passer sur un autre mode de fonctionnement qui est celui de l'imaginaire. Souvent, les scientifiques, d'ailleurs, sont des gens très imaginatifs parce que pour créer des nouveaux modes d'observation, il faut faire preuve d'imagination aussi. Mais l'auteur, lui, c'est celui qui fait le saut passant de l'observation à l'imagination. Et comme il n'est pas tenu ni par des résultats, ni par des budgets, ni par quoi que ce soit, donc lui, il a une sorte de grande liberté. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre le relais du scientifique à un moment, de projeter plus loin, lequel après, et paradoxalement, ça crée des retours pour le scientifique qui, lui, voit mais finalement les auteurs ont une sorte de grande liberté qui ouvre des perspectives, et donc peut-être qu'on peut aller voir là, explorer là, etc. C'est vrai que dans le temps, dans le 18e siècle, on pensait que jamais le plus lourd colère ne pourrait voler, tout simplement, et donc ça s'est avéré faux. Alors, on ne peut pas affirmer, la plus raison, on ne peut pas affirmer que la vie n'existe pas ou que la vie existe, parce qu'on ne le sait pas. Donc ça d'abord amène beaucoup d'humilité par rapport à nos connaissances, c'est-à-dire, on a des connaissances qui sont liées à nos observations, donc à nos sens, et il y a peut-être d'autres façons de fonctionner. L'imaginaire, c'est une autre façon de fonctionner. Donc ça ouvre des sortes de perspectives en disant ce que l'on croit vrai sur le moment ne l'est pas forcément demain. Et je pense que l'auteur de science-fiction, c'est là-dessus, c'est là-dedans, dans cet espace-là qui s'inscrit, c'est ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, c'est possible demain, et moi je vais essayer de l'imaginer. Peut-être que je me plante complètement, peut-être que je suis complètement à côté, peut-être que c'est simplement l'objet de mes désirs, ou de mes erreurs, ou de mes fantasmes, peu importe. C'est ouvrir des perspectives en permanence par l'imaginaire. Ça me paraît intéressant, ça me paraît assez complémentaire du travail de scientifique.
Je suis tout d'accord avec ce que tu dis, Claire, c'est important en science d'avoir de l'imagination. C'est une imagination qui est. Il faut en avoir beaucoup, il faut se lâcher, comme on dit, puis il y a la contrainte, il y a le juge de paix qui sont quand même des observations, des expériences, hein, qui trient un peu toutes les idées. Et d'une autre façon, c'est. J'ai une proposition fondée sur le Clausewitz qui disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Là, la science-fiction, c'est la continuation de la science par d'autres moyens. Et que d'une façon, ces rapports-là sont tout à fait intéressants. Et l'auteur de science-fiction, je pense, ne cherche pas, Pierre me répondra peut-être, mais à prédire le futur ou à imaginer un futur possible.
Jamais, ouais.
Mais il cherche à envisager des possibles, à poser des questions. Et ce qui me paraît important, c'est pas tant la réponse apportée. Peut être évidemment dépendant de l'auteur, de ses fantasmes, de ses biais, de ses connaissances, de ses croyances, et le chemin qu'il a proposé, le chemin intellectuel proposé de questionnement, et que l'on peut faire, finalement, c'est l'expérience de pensée. Et cette expérience de pensée de dire, il y a de la vie, oui, il y a de la vie, comment elle se développerait, qu'est-ce qu'il y aurait comme interaction avec l'humain, etc. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
Le scientifique ne va pas vous dire, il y a de la vie. Il va vous dire, je vais proposer un programme scientifique très subtil pour essayer de voir si.
Qui va coûter très cher.
Bon, sachant qu'il faut reconnaître aussi que. Si ce sujet est attractif, comme ce sujet est attractif, le sujet de, disons, des exoplanètes pour commencer, d'une éventuelle vie extraterrestre, que ce soit sur les planètes du système solaire ou que ce soit sur d'autres planètes, ce sont des sujets qui ont des budgets qui sont faciles à avoir. Donc ça explique aussi pourquoi, par l'attractivité de ces sujets, il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui s'y plongent, qui y vont. Quand il n'y avait pas d'exoplanètes découvertes, bon, il n'y avait rien comme pour supporter scientifiquement le projet. Dès qu'on en a découvert, il y a eu, un rush, mais il y a eu énormément de gens qui ont commencé à s'intéresser au problème, pour des raisons évidemment bêtement, mais je veux dire bêtement scientifiques. Avoir d'autres systèmes solaires sous la main, ça permet par exemple de valider des modèles de formation de notre système solaire. Et en gros, dans les mois qui ont suivi, c'est découvert dans ces premiers systèmes solaires extérieurs, à peu près tous les modèles qu'on avait avant ont fait des problèmes. Tous les premiers, les simulations, si vous voulez, avaient eu des soucis, il a fallu remettre tout à courant. Ça, c'est intéressant, et donc du coup ça permet d'avoir des crédits, disons, relativement facilement. C'est toujours des missions spatiales qui coûtent cher, c'est même pas gratuit. Et voilà, c'est aussi des sujets qui, parce que les auteurs de science-fiction finalement labourent au terrain en amont, parce que cette question, même sans les auteurs de science-fiction, la question de l'altérité, de la vie extérieure, elle se pose depuis longtemps. Il y avait des sélénites avant d'avoir des martiens, et avant d'avoir des êtres sur Avatar, il y a eu des êtres sur la Lune tout de suite, parce que la Lune elle est là, et on dit qu'il y a des sélénites. Et on a peuplé la Lune de ces êtres qui regardaient la Terre, et on s'est amusé, toujours le point de vue extérieur, à moquer les terrestres, les sélénites, avec des caricatures qui moquaient les terrestres de la guerre de 14, les martiens. Il y a des caricatures, on voit des martiens qui observent la guerre de 14 sur Terre, voilà, la Terre elle est en fumée, il y a des bombes, et puis ils ont l'air de dire, ça a l'air de chauffer là-bas, nous mettre tranquille sur Mars, des nus avec des tranches pas possibles, des télescopes un peu bizarres. Donc ce point de vue extérieur, il est toujours nécessaire. L'auteur de science-fiction le donne.
Ce qui ramène d'ailleurs à l'objet de la science-fiction, qui est de parler de l'humain maintenant. Que le biais spatio-temporel, c'est juste une autre façon d'observer l'humain et de ramener des observations de l'humain qui nous servent maintenant. Je pense que c'est aussi un paradoxe par rapport aux autres littératures. Toute forme de littérature est une littérature du passé. Quand vous parlez du présent dans votre littérature, votre bouquin sort 6 mois après, donc c'est déjà passé. Seul le saut dans l'espace-temps permet de parler du présent. Et c'est un peu le paradoxe des genres de l'imaginaire, c'est que soit on le fiche dans la fantasy, ce qui devient un peu un mythe universel très proche des mythologies, soit on utilise le biais de la science-fiction pour nous parler de nos sociétés maintenant et de l'état actuel de l'humain maintenant. Et c'est ça, je pense, l'intérêt principal de la science-fiction, c'est que c'est un effet miroir. Je pense que plus on projette loin dans l'espace-temps, et plus le miroir est grossissant. Et donc ça nous donne une vision de l'humain.
Merci.
Non, de rien. Alors, j'en ai d'autres.
Grâce à la richesse de deux intervenants, l'heure a tourné et nous avons quand même réussi à couvrir la première moitié du sujet de la table ronde, qui était la vie dans l'espace. Alors, je pense que pour qu'on puisse passer aux questions que vous devez tous avoir sans trop déborder et se faire ensuite attraper par Marie-Charles Delmas, on va peut-être passer aux questions et on reporte le mystère de nos origines à l'année prochaine.
Oui, l'année prochaine.
Hein, à l'année prochaine.
Mystère, voilà, les mystères, ils ont toujours.
Si ça vous convient, donc
c'est
passons,
lié, de toute façon,
passons
c'est
aux
lié,
questions.
C'est lié à l'étude de, oui. de la formation de la vie, forcément lié au mystère des origines. Des origines.
Et je pense qu'il vaut mieux passer aux questions.
Oui,
là.
Oui, oui, oui. S'il y en a.
Champ de galaxies est envoyé à 50 humains et on fait un vote majoritaire sur tous les points. Et à la fin, on sait où sont les galaxies. Voilà. Et bien, ce Galaxy Zoo, c'est juste incroyable, c'est un succès dément, incroyable. Il y a un jeu qui s'appelle Foldit maintenant. Alors, je parle, c'est sur un autre domaine, non, mais Foldit, c'est les protéines. Faire comprendre comment les protéines se replient pour tenir l'ADN, qui n'est pas le protéine, mais l'ADN, ça fait 1,80 m de long la molécule, ça tient dans une cellule humaine qui fait 1 micromètre de taille. Donc, c'est replié habilement. Ce fait habile, la nature le fait spontanément. Quand vous avez une molécule à 3-4 atomes, on sait replier. On sait comprendre. Quand c'est des molécules à je ne sais plus combien de centaines de milliers de paires de bases pour l'ADN humain, donc on dit voici un jeu vidéo. Le but est de plier optimalement en un certain sens, qui est fixé par les scientifiques, ces molécules. Vous jouez et vous voyez si vous gagnez. Bon, il y a un joueur qui a trouvé une réponse qui était intéressante. La réponse, maintenant, elle sert pour comment, intéressant au sens, c'est une procédure de repliement des protéines qu'on observe, on ne cherche pas à leur dire suivez la procédure, c'est démerdez-vous. Et il a trouvé un truc, il a fait le geste qu'il fallait pour que ça soit comme cette protéine qu'on a vu dans le calendrier. Voilà, pour dire que ne serait-ce que pour ça, CETI Atome et CETI a fait quelque chose, la science qu'on appelle collaborative, en utilisant la masse de la population et ses moyens et son envie de participer à son niveau, à la science. Alors, l'autre volet qui est... Donc ça, c'est le volet CETI, c'est le volet d'écoute. Ça se trouve, il ne nous parle pas. Premièrement, il ne parle pas. Deuxièmement, s'il parle en radio, il faut qu'il parle en radio. Si c'est des malins, les communications interstellaires les plus pratiques, c'est pas par ondes radio, vous arrosez la galaxie, vous donnez beaucoup de puissance pour arroser tout le monde. C'est par des lasers, par des choses plus focalisées, donc des plus courtes longueurs d'onde. Donc des lasers. Le mieux, c'est de discuter en laser entre vous et là-bas. Et l'intérêt, c'est que s'il y a personne qui veut vous écouter, il n'est pas pile sur le faisceau, il ne vous écoute pas. Donc pour espérer, c'est pas ça possible. Il faut qu'elle mette un petit miroir à son côté. Bon, s'ils communiquent entre eux par laser entre planètes, on est foutu parce que c'est jamais vers vous. Et puis même s'ils communiquent par ondes radio, ils ont commencé ça, il y a quelque part, des sbires qui ont des ondes radio. Si ça fait, mettons, 100 ans, nous, c'est ça qui envoie des ondes radio dans l'espace, la sphère d'influence de son radio, c'est 100 années-lumière. Donc si les gars sont à 102, ils ne vous entendent pas. Donc c'est-à-dire, il faut qu'ils soient là, on ne sait rien. Il faut que ce soit des radios, mais pas des supermanins, des moins avancés que nous, qui n'ont même pas l'onde radio. Il faut qu'ils aient la radio, parce que la radio, ça arrose. Et troisièmement, il faut que ça arrose, mais même si ça arrose, vous pouvez dans la sphère qui est en années-lumière, le nombre d'années depuis quand ils ont découvert qu'ils utilisent, disons, pleinement cette sphère-là. Donc ça limite. On pourrait imaginer parfaitement un système où il y ait des sortes de bulles radio, imaginons qu'il y ait, je ne sais pas, 1000 civilisations qui disposent de la radio en même temps dans la galaxie. Et alors là, on n'a aucune idée de ça, mais... Et que chacune le connaisse depuis 50 ans, typiquement 50 à 100 ans. Il y a des petites sphères de 100 années-lumière de diamètre qui sont totalement non connectées, comme un gruyère, et chacun se dit bien, est-ce qu'ils sont là les autres? Et en fait, ils sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont là, parce que l'information n'a pas eu le temps d'arriver. Donc, quand on fait ça, c'est vraiment parce qu'on ne sait rien faire de mieux. C'est comme le gars qui cherchait sous un lampadaire, allumé la nuit, il a dit, mais tu les as trouvés sous le lampadaire? Comment tu les as trouvés? Ben, j'en sais rien, mais c'est le seul endroit qu'il y a. C'est par rapport au lampadaire. On fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est qui, c'est le dado, parce que c'est pas de la science. Donc ils vont vous dire, de toute façon, on fait ce qu'on peut. S'il y a des gens qui sont employés pour ça, on le fait. La NASA était d'accord, elle n'a plus été d'accord. Ça, c'est des problèmes de politique budgétaire, il faut mettre son argent ailleurs. Bon, s'il y en a qui sont d'accord pour financer, allez-y, mes amis. Après, dans les voyageurs, il y avait un des passes spécifiques. Avait une plaque, enfin pas une plaque, c'était une façon de pionnière, mais il y avait un DVD, enfin l'ancêtre des DVD, des disques. Je ne sais pas si les gars, ils vont voir. Il y a un mode d'emploi, on y peut, quoi. Voilà. Ça pose des questions. Donc je finis là-dessus. Ils ont envoyé ça, est-ce que quelqu'un récupère un... Il y a un épisode de Star Trek où ils récupèrent Voyager.
Voyager,
c'est en fait Voyager, ils ont rappelé Voyager. Bon, la preuve que ça se passe, s'il y a un vaisseau interstellaire qui passe et qui passe pas loin de Voyager, bon. La moitié est nue, enfin bon, c'est très très, il se passe, c'est grand. Bon. Donc quand on fait ça, c'est pour le faire, pour faire le coup. Mais ce qui est intéressant encore là, c'est, ça pose une question intéressante. Okay. Vous envoyez un artefact humain, espérant que quelqu'un d'intelligent va le ramener. Bon. Comment vous lui expliquez le mode d'emploi? Voilà, c'est la question intéressante. Et notez que cette question-là, elle a un sous-produit extrêmement intéressant et très concret. Là, c'est des extraterrestres, on se marre, bon, ils ont fait des trucs, car ça leur était l'attente, d'autres gars ont réfléchi. Parfait. Il y a des messages qui ont été envoyés aussi. Hein. Nous, on a envoyé des messages. Qu'est-ce qu'on met dans le message? Comment ils comprennent le mode d'emploi? C'est toujours la même chose. L'autre question. Les usines, les centrales nucléaires françaises produisent des déchets. En France, on a pris parti de les trier, ces déchets. De mettre en tas les déchets qu'on appelle ultimes, ceux dont vraiment on ne peut rien faire. Ceux-là, c'est pas beaucoup, mais quand même. Si on veut stocker tous les déchets ultimes, on va faire un compte. Il y a un laboratoire à Bure, dans la Meuse. On va enterrer ces déchets, peut-être, si ça a décidé, et pour l'instant, c'est un laboratoire, sous 500 mètres de roche. Il y aura des kilomètres de souterrain. Une fois que ça sera rempli, ce souterrain, vous fermez. Vous partez. Vous avez mis ça là, parce que vous dites, les structures géologiques, tout ça, les études chiadées qu'on a faites, qui sont à discuter éventuellement, donc là, la conclusion à laquelle scientifique, au mieux, vous pouvez faire arrive, ça va tenir 100 000 ans là-dedans. Mais vous tirez. Et même si vous ne tirez pas, vous laissez un type à l'entrée. Mais 100 000 ans après, le type n'était plus là. Comment vous faites pour dire à des générations d'êtres vivants, intelligents, peut-être des humains dans 100 000 ans, que cet endroit-là, il est vraiment dangereux à 500 mètres? Bon, il faut faire un effort pour aller à 500 mètres. Vous êtes obligé d'envisager ça. Qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez que là, dans un problème beaucoup plus concret, je dis 100 000, ça peut être 1 000 ans, c'est un problème beaucoup plus concret, c'est comment vous discutez avec des humains de dans 1 000 ans pour leur dire, là on a chié ici, on a pris des précautions comme on a pu, déconnez pas. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose? Est-ce qu'il faut ne rien mettre? Qu'est-ce que vous mettez comme langue? Des comicos, enfin vous voyez. Donc il n'y a pas besoin d'aller, voyez. Et c'est là on retombe, et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est l'humain, c'est pas la technique. La technique, c'est intéressant. Là, on est chauffé, dehors, on se les gèle. Donc, la technique, c'est intéressant. Mais ça a des effets. La science a des effets manifestes et intéressants. Mais là, c'est intéressant. Ça, c'est ces questionnements qui sont, évidemment, quand on les adresse au niveau spatial, universel, extraterrestre, etc., sont des questionnements qui ont l'air un peu lointains. Mais en fait, ça tombe. Finalement, il y a un truc sur Terre qui se passe et qu'on a besoin. C'est ça qui est intéressant.
Si vous voulez apprendre sur le plan littéraire, mais très rapidement parce qu'on a plus de temps.
Le mot de la fin.
On fait comme on peut. Je vais reprendre le mot de Roland. On fait comme on peut, quoi. C'est-à-dire, chaque auteur imagine des rencontres au gré de son imaginaire, justement. Et c'est souvent c'est quelque part de l'anecdote, parce qu'effectivement, comme dit Roland, l'espace, c'est grand. Donc il faut quand même un concours de circonstances incroyables pour que deux espèces se rencontrent. On n'a pas abordé l'histoire de la matière intelligente, tout ça, ce qui m'intéresse beaucoup, mais on n'a pas le temps.
Bon, l'année prochaine,
etc. On fait comme on peut, on fait à qu'est-ce qu'on peut, comme disaient les Romains. Je pense qu'un auteur, il va prendre le procédé pour faire rencontrer l'espèce extraterrestre, parce que ça l'intéresse à ce moment-là, donc il va se démerder pour la faire rencontrer d'une façon ou d'une autre, soit qu'elle vienne nous rendre visite et qu'on l'observe dans l'atmosphère terrestre, soit qu'on nous on se déplace et qu'on la voit sur une autre planète ou dans l'espace aussi.
Des rencontres aussi qui sont très subtiles, alors il y a la rencontre directe, mais des rencontres, je pense, à rendez-vous avec Rama, par exemple, ouais. Où c'est une rencontre très subtile, parce que c'est une rencontre avec un artefact extraterrestre, hein, c'est ce vaisseau qui rentre dans le système solaire, qui fait le tour et qui repart. Il y a des trucs qui se mettent en branle dedans, c'est rien des vivants, c'est que des machines, les humains sont dedans, ils explorent, le truc repart. Et ouais. Clairement, vous allez rencontrer une espèce intéressante sans jamais la voir. Là, je trouve que c'était très subtil. Et vous avez des informations.
Il s'épargne vraiment un gros boulot qui est de décrire.
Il s'épargne le boulot, mais là, exactement.
Parce que c'est un gros paresseux, bah oui, en gros.
Clark, là, du coup, il ne s'est pas cassé la tête. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir toutes ces rencontres. Elles sont, ouais, en fait.
Donc, rendez-vous avec Roland Lehoux, qui est Pierre Bordage, l'année prochaine, pour la suite. Parce que là, c'était manifestement beaucoup trop court et il s'impatiente. Merci à tous les deux
pour
cette heure qui a passé trop vite.
Ah oui, là, on était super bien. Bon, bah là, je veux dire, c'est des sujets super.
Ah oui, bah oui. On n'a pas abordé la moitié.
On n'a pas tout fait encore.
Non,
je t'avais dit avec Roland, ça roule.
Oui, bah, et avec quoi, vous
savez. Non, mais c'est bien, c'est super. Il faut qu'on fasse un truc, hein. Il faut qu'on fasse un truc ensemble, en fait.
Mais ouais, peut-être.
Ça, je dis ça, mais je dis ça en l'air, mais après, toi, tu as plein de trucs à faire. Toi, t'en vis, alors donc, du coup, ça change les choses. Alors, moi, ce que j'ai envie, c'est pas ça, j'ai envie de faire. Donc, les contraintes ne sont pas les mêmes. Ouais, exactement.